Emmanuel Bauve, un père et sa fille. Seconde partie. Durant les premiers mois qui suivirent le départ de sa femme, Jean-Antoine Abou vécut dans une sorte de somnolence. Il délaissait son magasin, sa fille, ses occupations. Il passait des heures éloigné de tout ce qui pouvait lui rappeler le passé, souvent en compagnie de gens qu'il rencontrait dans les cafés et à qui il cachait son nom. Son appartement lui était devenu odieux. Dès 8 heures, il se levait et partait toute la journée, soit pour une ville de banlieue, soit pour un quartier lointain, où il passait son après-midi au cinéma. Quand il rentrait au milieu de la nuit, il ne se rendait même pas dans les autres pièces de l'appartement et se couchait immédiatement. Comme il avait du mal à s'endormir, il parcourait des catalogues, des prospectus, car tous les prospectus qu'on lui donnait, il aimait à les conserver et à les lire au lit, puis il s'assoupissait. Bientôt, une envie folle de revoir sa femme, mais de ne pas lui parler, de passer fièrement à côté d'elle, le prit. Par un de ses employés, il sut qu'elle avait fréquenté un bar de la rue Daunou, tout proche de son salon de coiffure. C'était là, en effet, que certaines de ses clientes se rendaient. Un soir, vers 5 heures, il passa plusieurs fois devant le bar sans oser y pénétrer. Jamais il n'avait été dans un bar. Il craignait de paraître ridicule, de ne savoir quelle boisson commander. Le lendemain, il revint. Il lui répugnait d'avoir l'air de chercher sa femme. Il eût préféré la rencontrer par hasard. Mais c'était plus fort que lui. Il y entra. Un groupe de femmes était assis au fond de la salle. Il sentit que parmi elles se trouvaient justement des clientes qui le connaissaient. À la fin, il osa un regard. Marthe n'était pas là. Il ressentit un profond soulagement. Il s'accouda au comptoir. Soudain, le sang lui monta à la tête. Il venait d'entendre cette phrase qui le bouleversait. « Tiens, c'est sa mocheté de mari !» Pour ne pas paraître entendre, il se raidit. Un vertige le prit. Machinalement, il but le verre qui se trouvait devant lui. Puis, la tête tournée vers l'endroit où il n'y avait personne, de manière qu'on ne pût le voir même de profil, il sortit. En marchant, il se répéta la parole perçue. Et au fond de lui-même, il savait maintenant un gré infini à sa femme de ne s'être point trouvée là. Il se demandait où elle pouvait être à cette heure. Son ignorance lui pesait plus que s'il avait eu la certitude qu'elle était dans les bras d'un amant. Il la sentait en proie à déjà 1000 autres occupations. À l'approche du soir, elle devait éprouver le même sentiment d'isolement, de détresse que lui. Et s'il l'avait rencontrée à cet instant, il sentait bien qu'il se fût approché d'elle, au lieu de passer fièrement comme il l'avait fixé. Malgré l'évidence, il commençait à croire qu'il s'était peut-être trompé, que Marthe lui avait été fidèle. Mais avec le temps, il prit de nouvelles habitudes et commença d'oublier. À certains moments, il lui semblait pourtant qu'elle n'avait point d'histoire, qu'elle ne lui appartenait point en propre, puisqu'il était seul à les avoir prises. Ses nouvelles préoccupations étaient plus légères que jadis, et l'atteignaient moins, au point qu'il lui apparaissait qu'au moment où il voudrait se secouer, il les chasserait. Mais il ne se secouait jamais, cherchant inconsciemment qu'elle prise, avec le temps, de l'ampleur, qu'elle devinsse de véritables soucis dont il n'eût pu se débarrasser. Il en était de même pour les nouvelles gens qu'il approchait. Il n'avait point, comme jadis, cet air de jouer un rôle dans sa vie. Il semblait appartenir à un autre monde, vaste et paisible, où personne ne s'aimait ni ne se haïssait. C'était comme une cohorte de fantômes qui l'entouraient. Que ceux-ci disparussent complètement ou que subitement leur nombre s'accrût, lui était égal. Les maisons, les rues, elles aussi changeaient. Partout, il y avait plus d'air. Partout, un vide se faisait à son approche. C'était comme quand on revient dans la ville de son enfance. Même les personnes qu'il avait connues et qu'il continuait de rencontrer étaient autres. Ainsi qu'en cette année de la vie où l'on vieillit subitement, il lui apparaissait à des riens que tous avaient passé par la même crise que lui et qu'ils étaient entourés du même isolement. En marchant sur la cinquantaine, c'était vers un monde nouveau, qui, comme le sien, était encerclé de solitude, qu'il avançait. Tout ce qui, jusqu'alors, lui avait semblé devoir l'accompagner, le quittait. Il se trouvait tout à coup aussi faible, mais sans foi, qu'au commencement de la vie. L'amour qu'il portait alors à son enfant se transforma en idolâtrie. Une peur vague de l'atavisme faisait qu'il redoutait pour elle les maladies de ses ancêtres. Il n'était point d'attention, de précaution qu'il n'avait à son endroit. Quand il sortait avec elle, une fierté sans bornes l'envahissait. Il souffrait lorsqu'il entrait dans la conversation de son enfant des phrases blessantes pour lui et qu'elle disait, par exemple, que le professeur de dessin, avec sa barbe en pointe et son toupet, ressemblait à un coiffeur. Plus elle grandissait, plus il apportait de soin à dissimuler sa profession. Un jour, craignant que son nom, à la porte de son magasin, n'attirât l'attention de sa fille, il le fit enlever. Lorsqu'Edmond eut 14 ans, il voulut qu'elle prît des leçons de piano. En apprenant qu'il était un peu tard, il en conçut une profonde tristesse. Déjà, son enfant commençait à souffrir de l'ignorance de son père. Jusqu'au jour où il acquit la certitude qu'il n'en était pas de même pour la peinture, il vécut dans des transes. Il n'osait la chercher à la sortie de ses cours, tant il craignait de paraître commun à côté des autres parents, ni écrire au professeur, ni même leur parler. C'était Nathalie à qui incombaient ses soins. Il se contentait de sortir avec Edmond le jeudi et le dimanche. Son plus grand bonheur était de se trouver à son côté. Ils allaient à la campagne ou au théâtre. Tout ce que disait sa fille, il l'écoutait religieusement. Dans les moindres conflits, il lui donnait toujours raison. Un jeudi de mai, un événement vint le troubler et l'humilier profondément. La veille, sa fille avait insisté pour aller visiter le jardin d'acclimatation. Elle y avait pris rendez-vous avec une de ses camarades qui devait s'y rendre avec ses parents. « Cela sera amusant, avait-elle dit, de se rencontrer. » Elle avait caché ce rendez-vous à son père, sentant confusément qu'en le connaissant, il n'aurait pas voulu venir. La journée était belle. À 2 heures, le père et la fille se trouvaient déjà dans le jardin. Antoine Abou ne se tenait pas de bonheur. Il disait à chaque instant à sa fille de courir devant lui pour la regarder de loin tout entière. Soudain, dans une allée, Edmond et Simone Marcelin se rencontrèrent. Monsieur et Madame Marcelin venaient doucement derrière. Monsieur Marcelin était un homme de 50 ans, grand, fort et fier d'allure. Colonel d'un régiment de tirailleurs, il avait fait campagne en Chine, en Afrique et sur le front français. Il se tenait très droit. Une expression énergique était peinte sur son visage bronzé. Il y a 30 ans, dans un coup de tête, il s'était engagé dans ce même régiment qu'il commandait aujourd'hui. Les honneurs et les dangers de la vie militaire l'avaient attiré. Il avait alors rêvé d'uniforme, de décoration, d'être un jeune et brillant officier, de danser dans les bals de province, d'avoir les plus jolies maîtresses des villes de garnison. Après une vie aventureuse, il s'était marié avec la veuve d'un préfet. Depuis, il avait trompé plusieurs fois. « Ce n'était que sensuel, disait-il pour se faire pardonner. » À la vue de cet homme qui, galamment, se découvrait devant son enfant, Antoine Abou fut pris d'un sentiment complexe, fait de honte et de peur. Il lui sembla qu'un vent brûlant soufflait autour de lui sans discontinuer. Toute la lourdeur de cette chaude après-midi pesait sur ses épaules. Il vit partout des journaux blancs dans les mains des promeneurs, des enfants enjambant les arceaux pour jouer sur les pelouses. La pensée de fuir traversa un instant son esprit. Il n'eut plus le temps de penser. Sa fille s'était tournée vers lui. Il était seul sur un espace assez large. Le colonel et sa femme le regardaient et s'avançaient déjà à sa rencontre. « Monsieur Abou, certainement. Permettez-moi de me présenter, colonel Marcelin. » Puis, se tournant vers sa femme, « Monsieur Abou. » Le père d'Edmond ôta son chapeau et balbutia quelques mots. Il était rouge, il ne savait que dire. Il lui semblait que sa fille allait être compromise à jamais. Il se raidit pour être digne d'elle. Madame Marcelin l'observait des pieds à la tête. Il arrivait à peine aux épaules du colonel. Il eut honte de cette différence de taille, de ses manières, de son visage, de ses vêtements. Il lui semblait qu'il était écrit sur son front qu'il était coiffeur, que les parents de toutes les camarades d'Edmond allaient l'apprendre, les professeurs aussi, et la phrase entendue dans le bar lui revint à l'esprit avec cette modification. « Tiens, c'est sa mocheté de père !» Un profond désespoir l'envahit. Sa fille riait avec Simone. De la voir naïve et insouciante lui brûla le cœur. Il lui apparaissait que dès le lendemain, elle allait être tenue à l'écart et que personne ne lui adresserait plus la parole. « Elles ont l'air de bien s'entendre, nos enfants, » dit le colonel. Antoine Abou se rappela les efforts qu'il avait faits jadis pour parler avec aisance à des directeurs. Il pensa « Je n'ai qu'à parler, dire n'importe quoi. Tout vaut mieux que le silence. » Il sourit, désigna sa fille du doigt et dit « Ma fille, comme la vôtre sans doute, aime les promenades. C'est amusant ce jardin. » Il s'arrêtait pour faire des courbettes. De temps en temps, il jetait un regard inquiet sur les gens qui, lentement, le dépassaient. « Il paraît qu'on peut monter ici sur des éléphants ou sur des chameaux. »« De piètres chameaux, » observa le colonel. Les enfants adorent les jardins et les parents les accompagnent avec plaisir. Encouragé, Antoine Abou voulut expliquer les sentiments qu'il éprouvait à suivre Edmond dans ce lieu. C'est délicieux de voir son enfant prendre plaisir à des jeux qui, aujourd'hui, vous paraissent enfantins. Au bout de quelques minutes, le colonel l'interrompit. En effet, c'est charmant. Malheureusement, les grandes personnes ont des occupations que la jeunesse ignore. Nous nous rencontrerons certainement une autre fois. Au revoir, monsieur, au revoir. De nouveau seul, Antoine Abou eut l'impression très nette que le colonel, qu'il voyait s'éloigner, devait dire à sa femme « Qu'est-ce que c'est que ce type-là » Dans ce jardin ensoleillé, au milieu des promeneurs joyeux, il se sentait misérable et chargé d'une vie obscure. Son passé se présenta dans sa mémoire. Il était fait de mille souvenirs lamentables où grouillaient toutes les petitesses, toutes les mesquineries qu'une vie peut contenir. Certains d'entre eux le firent rougir. Il appela sa fille et lui demanda de partir. Elle le regarda avec tant d'étonnement et de tristesse qu'il n'eut pas la force d'insister. À mesure qu'Edmond grandissait, la fierté et l'amour de son père s'accroissaient encore. Il en perdait la tête. Elle était si belle à ses yeux qu'il ne parlait jamais d'elle aux gens avec lesquels il entretenait des relations d'affaires. Il lui semblait qu'en le faisant, il eût terni son enfant. Il gardait cette passion au plus profond de lui-même. Quelquefois pourtant, des voisins qu'il connaissait depuis 10 ans lui demandaient « Et la petite, comment va-t-elle ?» Cette simple question bouleversait Antoine Abou. Il y trouvait une familiarité vulgaire qui lui rappelait sa véritable condition. Cette question, passant à travers lui, atteignait son enfant, la faisait descendre d'un échelon, la plaçait sur un plan inférieur. C'était justement ce qu'il redoutait par-dessus tout. Sa raison d'être était de maintenir sa fille au-dessus du milieu dans lequel il vivait. Il avait l'impression que l'échafaudage sur lequel elle se tenait était fragile et que le moindre relâchement de sa part risquerait d'en entraîner la chute. Et que sa fille ne se doutât de rien le faisait souffrir comme s'il se fût trouvé en présence d'un malade ignorant la gravité de son mal. C'était avec une attention jamais distraite qu'il veillait à ce qu'Edmond ne soupçonnât rien. Tout ce qu'elle désirait, il le lui accordait. À la maison, il se surveillait continuellement afin d'avoir de bonnes manières. Il parlait peu. Bien qu'il le désirât ardemment, il n'ôtait pas son veston en été. Comme si sa présence eût pu ternir la chambre de jeune fille d'Edmond, il n'y pénétrait jamais. La crainte de paraître ignorant faisait qu'il affectait une grande indifférence pour toutes ces choses. De cette façon, son enfant ne lui posait que rarement des questions. Quand, par hasard, elle lui demandait un conseil, il répondait invariablement « Fais comme tes amis ». Un jour, elle lui annonça que Simone faisait de la peinture et qu'elle voulait en faire d'une manière plus suivie. Edmond avait alors 18 ans. Elle ne sortait pas sans emporter un volume des Fleurs du Mal. Elle avait des préférences littéraires et artistiques. Durant des heures entières, elle discutait sur l'art, sur l'enfantement douloureux des œuvres, sur la différence du génie et du talent, sur la vie des grands artistes, sur la société qui ne les comprenait pas. Aux yeux de son père, elle s'habillait drôlement. Mais il eût préféré mourir que de lui faire une observation. Elle portait des sweaters de couleurs voyantes, des feutres comme ceux des hommes, mais dont elle levait les bords chaque jour d'une manière différente, des foulards de batik. Ses cheveux étaient coupés très courts dans la nuque. Elle ne se mettait aucun fard sur le visage. Elle affectait une mise négligée et en mépris de l'élégance. Sans qu'elle pût se l'expliquer, elle avait honte de son père. Auparavant, il venait l'attendre au Luxembourg, où elle le retrouvait à la sortie de son cours de dessin. Pour se rendre à ses rendez-vous, elle quittait ses amis et se retournait plusieurs fois afin d'être sûre qu'il ne se trouvait derrière elle personne qui la connût. Un jour, elle dit à son père « Je suis grande maintenant, ce n'est plus la peine de venir me chercher. » Il se sentait d'ailleurs de plus en plus gêné près d'elle. « Elle me juge, » pensait-il souvent. Il osait de moins en moins lui parler. Parfois même, quand il entendait entrer, il ne quittait pas sa chambre. Il la fuyait et la recherchait en même temps. Ses marques d'amour devenaient de plus en plus gauches, car il ne savait comment les manifester. À chaque instant, des remarques de sa fille le plongeaient dans un abîme. Un jour, par exemple, comme il lui avait dit en la regardant avec admiration, « Je voudrais que tu sois une reine. » Elle avait répondu avec une pointe de mépris, « Tu devrais dire une sainte. » À table, il n'osait manger. Il se contentait de rester près d'elle, de lui sourire chaque fois qu'elle levait les yeux. Ce n'était que lorsqu'elle était partie qu'il se restaurait. Il ne l'embrassait pas, il lui gardait seulement la main longtemps dans les siennes, ce qui amena une fois la remarque suivante de sa fille. « Tu as une façon de serrer la main ?» Il dissimulait de plus en plus son amour, trouvant un bonheur âpre de voir son enfant accepter, sans même les remarquer, tous les sacrifices qu'il faisait pour elle. Mais un événement imprévu vint lui causer une grande douleur. C'était un dimanche. Il avait tenu absolument à sortir avec sa fille. Elle avait d'abord refusé, puis finalement lui avait dit « Eh bien, allons au Louvre. Je t'expliquerai ce qui est beau et pourquoi c'est beau. » Comme il longeait les quais, Edmond, soudain, sans dire un mot, se mit à courir. 100 mètres plus loin, elle s'arrêta. Quand il l'eut rejointe, Antoine Abou lui demanda « « Mais qu'est-ce qui t'a prise ?»« Oh, rien, ce n'est rien. J'ai eu envie de courir. » Antoine Abou ne comprenait pas. L'attitude de sa fille lui semblait celle d'une folle. « Allons, viens, papa. Ne restons pas ainsi sur place. » Il obéit. Pourtant, cette scène ne pouvait quitter son esprit. « Enfin, Edmond, dis-moi pourquoi tu t'es sauvé comme cela tout à coup. » Elle hésita une seconde, puis naïvement, « Sur l'autre trottoir, il y avait des gens que je connaissais. »« Tu ne voulais pas leur parler ?»« Non, penses-tu, papa, ce n'est pas cela. » En un instant, toute l'ombre qui baignait l'esprit d'Antoine Abou se dissipa. Ce qui était obscur devenait éclatant. Il comprenait tout. Sa fille avait honte de lui. Elle s'était sauvée pour qu'on ne le vît pas en sa compagnie. Il continua de marcher sans rien dire, mais une grande tristesse l'envahissait. Aucun reproche ne vint sur ses lèvres. Au lieu de se froisser, il s'en voulait d'être si gênant pour sa fille. Il acceptait son sort avec une résignation poignante, en ne s'efforçant qu'à une chose, dissimuler sa douleur. Cependant, une amertume profonde lui donnait envie de pleurer. Pour cet enfant, il avait tout fait. Durant des années, il n'avait vécu qu'avec un but, la combler. Il en avait été de même pour sa femme. Personne, pourtant, ne lui en était reconnaissant. Il n'en pouvait plus. Des larmes coulaient de ses yeux. Lui aussi, il aurait voulu à cet instant se sauver. « Il vaut peut-être mieux que tu ailles seul au Louvre. Je n'y connais rien dans la peinture. » Edmond le regarda avec étonnement. « Comme tu voudras, papa. Il me semble en effet que c'est mieux. » Il la regarda partir avec l'espoir qu'elle se retournerait pour lui faire un signe. Puis, lentement, il s'achemina vers sa maison. Cet événement devait en précéder un autre beaucoup plus grave. Un soir, après le dîner, comme il lisait son journal dans la salle à manger, Edmond s'approcha de lui et, prise d'une tendresse inhabituelle, l'embrassa sur le front. « Mon père, chéri, je voudrais te parler sérieusement. » Antoine Abou n'était pas accoutumé à cette douceur. Une sorte de ravissement coula dans tout son être. Il y avait des fleurs dans des vases. C'était lui-même qui, le matin, allait les chercher pour donner à l'appartement un air plus accueillant, tant il redoutait que sa fille s'y ennuyât. « Parle, mon enfant chéri. Tu ne m'interrompras pas avant d'avoir tout entendu. » Mais non, il ne faudra pas se fâcher si je te demande cela. » Antoine Abou eut un pressentiment. Il dit pourtant « Tu sais bien que je t'aime trop pour me fâcher. » « Eh bien, je vais te demander quelque chose. Voilà, j'ai pensé que ce serait mieux si j'habitais près de l'école de peinture. Je prendrais une chambre à l'hôtel. L'argent que tu dépenses pour moi à la maison, tu me le donneras. De cette façon, ce sera mieux pour moi, pour mon travail. On se verra la même chose, je viendrai à la maison tout le temps. » Edmonde désirait sa liberté avec passion. Elle avait soif d'indépendance. Elle se sentait déchue d'habiter cet immeuble triste de Montmartre, d'être obligée de rentrer à l'heure des repas, de ne pouvoir sortir le soir que rarement. Elle rêvait de rester tard dans les cafés à parler de peinture, de manger dans les restaurants à n'importe quelle heure, d'avoir une existence d'artiste. Lui ne l'écoutait plus ni ne la voyait. Tout à coup, il avait compris que c'était fini, qu'il n'avait plus d'enfant, qu'il était seul. Une pensée brutale traversa comme un éclair son esprit. « Je l'enfermerai plutôt que de la laisser partir. » Puis il retrouva son calme. « Ah, c'est bien fait, c'est bien fait !» De nouveau, il se résignait. Il sentait que rien ne pouvait retenir son enfant, que sa demande était impérieuse. Elle le regardait avec des yeux suppliants. Un instant, il s'imagina qu'elle avait un amant. Alors il la vit devant lui. Elle lui parut si jeune, si fraîche, si naïve, si supérieure à lui, que ses soupçons s'envolèrent aussitôt. « Tu veux absolument quitter la maison ?»« Mais tu n'as pas compris, papa. Je ne quitte pas la maison. Je prends simplement une chambre près de l'académie. C'est mieux comme cela pour mon travail. » Antoine était désarmé devant la première volonté si farouche de son enfant. Au commencement, Edmond vint souvent voir son père. C'était une fête pour lui. Il commandait des gâteaux, fleurissait l'appartement, puis, comme s'il se fût agi d'une cérémonie, se rendait dans le salon où, rasé, vêtu de neuf, il attendait en marchant de long en large. Quand il la revit la première fois, après une absence de 3 jours, il ne put la quitter des yeux. Tout ce qu'elle avait fait sans lui en ce laps de temps se présentait à son esprit. Elle avait donc pris des bains, des repas. Elle était coiffée comme le jour où elle l'avait quitté, et pourtant elle avait dû ôter son chapeau peut-être 10 fois. Elle arrivait toujours en retard. Elle prenait aussitôt toutes les attitudes d'une personne qui n'a pas d'occupations immédiates et veut s'attarder. Elle se mettait à l'aise, demandait à se rafraîchir ou à boire du café, s'asseyait dans un fauteuil et affectait une pose nonchalante comme si elle eût voulu dormir. Puis, tout à coup, un quart d'heure après, elle prétextait d'un cours pour partir. Ses visites s'espaçaient de plus en plus. Son père ne sortait presque pas, de peur de la manquer. Ce qui devait arriver arriva. Durant une semaine entière, Antoine Abou l'attendit en vain. Chaque jour, il se promettait de se rendre le lendemain à l'hôtel de sa fille. Mais une sorte de pudeur l'en empêchait. Il craignait de rencontrer des gens avec lesquels il faudrait qu'il engageât une conversation, de paraître soupçonner la mauvaise conduite de sa fille. Pourtant, le 8e jour, il n'y tint plus. Il se leva de bonne heure, prit un taxi et se fit conduire à l'hôtel. Plusieurs fois, en cours de route, il faillit rebrousser chemin tant il était ému. Devant l'hôtel, il demeura un moment indécis. « C'est peut-être trop tôt, » observa-t-il. À la fin, il entra. C'était un immeuble ordinaire transformé en hôtel. La cour du fond était surmontée d'une verrière. Dans le porche, qui avait été aménagé en hall et pavé de mosaïques, des gens qui parurent des étrangers à Antoine Abou se balançaient dans des rocking chairs. La fenêtre de la loge de la concierge avait été supprimée. L'embrasure formait comme une petite baie qui donnait sur une pièce étroite destinée primitivement à l'usage des fumeurs, mais où les locataires s'attablaient pour écrire leur correspondance. « Est-ce que Mademoiselle Abou est chez elle ?»« Je vais voir. » Le patron de l'hôtel regarda le tableau des clés. « Elle est chez elle, je vais la prévenir. »« Ce n'est pas la peine, je vais monter. Dites-moi à quel étage est sa chambre. Je suis son père. » Jean-Antoine Abou avait prononcé ces derniers mots avec fierté, mais tout de suite il le regretta. « Je n'aurais pas dû dire que je suis son père, » pensa-t-il. « Que je suis bête! On va avoir maintenant moins d'estime pour elle. » Il s'engagea dans l'escalier. Son cœur battait. À un moment, il eut comme un remords de venir à l'improviste chez son enfant et faillit retourner sur ses pas. Devant la porte de sa fille, il chercha, avant de frapper, un prétexte à sa visite. « Je lui dirai que je craignais qu'elle fût malade. » Il frappa. « Qui est là ?» Il reconnut la voix de sa fille. Mais d'avoir articulé cette phrase qu'il n'avait jamais entendue dans sa bouche, cette phrase qui venait d'une chambre qu'il ne connaissait pas et où vivait pourtant l'être qui lui était le plus cher au monde, il eut comme le sentiment désagréable que ce n'était pas Edmond qui l'avait prononcé, mais une femme inconnue. « C'est moi !»« Toi, papa !» continua la voix qui s'était approchée de la porte. « Oui, je viens te voir !» La voix se fit anxieuse. « Mais je suis encore couchée. Attends-moi en bas. Je te rejoins dans quelques secondes. » À ce moment, il sembla à Antoine à bout que, derrière la porte, une autre voix, celle d'un homme, venait de dire quelques mots. « Mets un peignoir. »« Mais non, papa, descends. Je te dis que je te rejoins tout de suite. » Antoine à bout entendit des pas derrière lui. C'était le patron de l'hôtel qui montait lentement et le regardait à la dérobée. Il eut l'impression que cet homme voulait se trouver là quand la porte s'ouvrirait et que c'était pour cela qu'il ne se hâtait pas. « Tu descends, papa ?» demanda Edmond. « Non, je t'attends là. »« Fais-moi ce plaisir. Descends donc, papa !» Le patron de l'hôtel continuait de monter lentement l'escalier. Mais il avait beau traîner tant qu'il pouvait, il se trouvait maintenant à l'étage au-dessus. « Ouvre, Edmond !»«
Je ne peux pas !» « Je ne peux pas. Descends, je te rejoins dans une seconde. »
Antoine Abou eut un étourdissement duquel il sentit qu'il ne pouvait sortir que par la violence. Il avait deviné que sa fille se trouvait avec un homme, mais cela ne lui avait encore rien fait. Ce n'était pas sûr. Il ne voulait pas savoir, il ne voulait pas partir. Il voulait entrer dans cette chambre. Du poing, il frappa de toutes ses forces contre la porte en hurlant soudain «
Ouvre, ouvre, je te dis d'ouvrir ou j'ameute l'hôtel. »
Ses instincts, longtemps refoulés pour le bonheur de son enfant, reparaissaient. Il n'avait plus à être digne d'elle. Dans la chambre, Edmond, affolé, le suppliait.
« Ne te fâche pas, mon papa, je vais ouvrir, mais descends. »
« Ouvre, ouvre ou je défonce la porte. »
« Oui, je vais ouvrir, attends une seconde. »
« Tout de suite, tout de suite. » Alors, malgré sa colère, malgré ses tempes qui bourdonnaient, il perçut une voix tremblante. Il reconnut celle de sa fille. Elle semblait ne plus venir de la chambre. Elle disait
« Mais il y a quelqu'un ici !»
Antoine Abou ne saisit pas le sens exact de cette parole. Elle dansait dans son esprit. Il ne comprenait pas, et pourtant, à présent, il n'y avait plus de doute. Sa fille elle-même venait de lui avouer qu'elle se trouvait avec son amant. La rage croissait toujours en lui. Une pensée se précisait dans son esprit trouble. Faire en un instant de sa fille ce qu'elle eût été sans lui. D'une voix butée et rauque, il continua.
« Ouvre à ton père ou j'appelle la police !»
À ce moment, le patron de l'hôtel, qui, de l'étage supérieur, avait entendu toute la scène, redescendit et s'approcha d'Antoine Abou. «
Calmez-vous, monsieur, c'est un hôtel convenable ici !»
Abou le dévisagea avec colère, puis d'une voix empreinte d'un accent faubourien qui venait tout à coup des profondeurs de son passé,
« Mêle-toi de tes affaires !»
Au même instant, la clé tourna dans la serrure, mais la porte ne s'ouvrit pas. Il attendit quelques secondes, les yeux fixés sur la serrure. Puis, comme un fou, il entra dans la chambre. Un jeune homme se tenait debout près de la cheminée. Effondré dans un fauteuil, sa fille pleurait. La pièce était en désordre. Des tubes de couleur traînaient sur la table. Au mur, des croquis, fixés par une épingle, se balançaient légèrement. Une robe gisait à terre. Antoine Abou fit quelques pas. La colère l'aveuglait. Le jeune homme, qui était grand et blond, lui dit tout de suite
« Monsieur, je vous demande pardon, mais je veux m'expliquer. »
L'émotion le faisait bégayer.
« J'appartiens à une famille honorable. Mes parents sont au courant.
Permettez !»«
Tais-toi !»
fit Antoine à bout. Il s'approcha de sa fille, qui, depuis qu'il était entré, n'avait pas une fois levé la tête. Il resta un instant près d'elle, la regardant de haut en bas, puis, tout à coup, lui donna un coup de pied dans les jambes.
« Tiens, de la part de ton père !»«
Monsieur, je vous en supplie !» dit le jeune homme en tendant les bras en avant.
« Mêle-toi de tes affaires !»
Il passa la main sur son front, puis s'appuya contre l'armoire. Sa fille sanglotait. Il jetait de temps en temps un regard méchant sur elle. À le voir, il semblait seulement qu'il venait de souffrir d'un malaise. Soudain, ses genoux fléchirent. Durant une seconde, on eût dit qu'il allait tomber. Mais il se raidit, fit un pas d'essai, comme les malades, puis un autre. Près de la porte, il se retourna. Un rictus déformait sa bouche et donnait à son visage une expression crapuleuse. On sentait qu'il cherchait les mots les plus grossiers qu'il connaissait pour les jeter à la face de sa fille et de son amant, mais que, dans sa douleur, il ne les trouvait pas. De nouveau, ses genoux fléchirent. Le corps tremblant, il resta comme à demi accroupi, les mains déjà en avant pour se protéger s'il tombait. Dans un suprême effort de volonté, il parvint à se redresser.
« Vous allez bien ensemble !» balbutia-t-il.
Et il partit. Dans le hall, il vit un attroupement. Des femmes de chambre causaient avec les locataires. Tout le monde s'écarta à son passage. Le portier alla chercher un taxi, mais Abou ne voulut pas le prendre. Il ne reconnaissait plus le patron de l'hôtel qui s'empressait autour de lui et le conduisit par le bras jusque dans la rue. Il ne pensait plus, il alla droit devant lui comme dans un état d'hypnose. Un orage éclata, il ne pensa même pas à s'abriter jusqu'à ce que la pluie eût cessé. Il marchait au hasard. Le soir, il ne se coucha pas ni ne se déshabilla. Il alla tévin dans l'appartement comme un fou. Il n'avait pas déjeuné ni dîné. Par moments, il réfléchissait, mais le plus souvent, il se trouvait dans une sorte d'inconscience. Il arrivait même qu'il oubliait tout, qu'il ne savait plus pourquoi il souffrait. C'était comme un abîme autour de lui. À d'autres moments, un curieux sentiment naissait en lui. C'était un mélange d'humiliation, de regret de s'être conduit comme un homme de basse condition, d'avoir en un instant détruit ce qu'il avait édifié en des années et en même temps de contentement. Puis il savourait la joie amère de la vengeance, jusqu'à ce que, tout à coup, il lui apparaissait que celle-ci se tournait contre lui. Au milieu de la nuit, une lumière se fit petit à petit dans son cerveau. Il n'avait, pour sortir de sa douleur, qu'à se laisser doucement glisser vers la déchéance, à oublier toutes ses ambitions et tous ses rêves, et à ne plus chercher qu'à atteindre un seul but, celui d'être le dernier des hommes. Mais cet épanchement vers le néant était encore trop neuf pour qu'il s'y arrêtât longtemps. Des accès de désespoir normaux y succédaient. Le lendemain matin, Nathalie lui apporta une lettre. C'était sa fille qui lui écrivait. « Père, mon âme t'est étrangère. C'est vers un autre idéal que le tien qu'est le temps. Peut-être que plus tard tu comprendras que je n'ai rien fait de mal. Le monde, dans son hypocrisie, cache ses vices derrière des principes barbares. » Ceux qui les rejettent, la société les condamne à souffrir. Tu n'as pas deviné ce qu'il y avait de grand dans ma soif d'affranchissement. Je te jure encore une fois que je n'ai rien fait de mal. Je te demande pardon de t'avoir fait souffrir. On n'a pas le droit de faire souffrir. » Dans un post-scriptum, Edmond annonçait qu'elle avait donné congé à l'hôtel et qu'elle reviendrait habiter avec son père. Antoine Abou lut cette lettre sans émotion. Après une nuit où il avait à peine dormi 2 heures, il était glacé. Cette lettre, il avait l'impression que ce n'était pas sa fille qui l'avait écrite. Il la lui a dictée, pensa-t-il. Puis le souvenir de la scène de l'hôtel lui revint. Plus encore que l'acte de son enfant, sa propre grossièreté avait tué son amour. Le besoin d'être enfin soi-même se faisait de plus en plus précis dans son esprit. « J'ai voulu être trop grand. » Ses aspirations avaient dépassé ses forces. À partir de maintenant, il vivrait bassement. Il était fait pour cela. Sa folie avait été de croire qu'il pouvait en être autrement. Hanté par l'image intolérable de cet inconnu qu'il avait vu dans la chambre de sa fille, il éprouvait un bonheur douloureux à se laisser glisser vers le renoncement. Il ne méritait aucun amour. Il ne méritait pas de rendre heureux quelqu'un. Qu'on le laissât seul et tranquille, c'était tout ce qu'il désirait à présent. Il appela Nathalie. « Vous direz que je suis partie en voyage, que vous ne savez pas quand je reviendrai. Surtout, n'ôtez pas la chaîne en lui parlant. Il ne faut pas la laisser rentrer. » Durant 8 jours, Antoine Abou s'absenta. À son retour, la première chose qu'il fit fut de demander si Edmond était venu. Nathalie lui répondit qu'on avait sonné plusieurs fois, mais que, pour être plus sûre d'obéir à ses ordres, elle n'avait ouvert à personne. Antoine Abou manifesta un certain mécontentement qu'il masqua sous cette parole. « Vous auriez dû ouvrir, c'était peut-être des amis. » Puis il s'enferma dans sa chambre. Les bruits de la rue lui rappelaient le passé et il se sentit plus seul encore dans l'appartement vide. Au cours de la soirée, il se rendit dans la chambre de sa fille et fouilla dans tous les meubles, prenant plaisir à forcer les tiroirs dont il n'avait pas la clé. Il trouva des lettres, des cartes de visite, des invitations. Il eut l'impression que toute une vie qu'il ignorait l'avait entouré. Sa solitude présente n'était donc que la continuation d'une autre solitude. Peut-être ne pouvait-il s'entendre avec personne. Peut-être était-il le vrai coupable. Et un doute, dont il ne savait comment se défendre, l'envahit. Près de 5 ans s'écoulèrent jusqu'au jour où il reçut le télégramme de sa fille. Il avait complètement changé. Le salon de coiffure était vendu depuis longtemps. Maigri, hargneux, voûté, il était à présent un vieillard. Les soucis lui avaient donné un commencement de maladie de foie. À la moindre émotion ou contrariété, un point de côté l'empêchait de marcher. Pourtant, il passait son temps à boire et à fréquenter de mauvais cafés où il jouait aux dés, aux cartes, avec des camelots et des jeunes gens qui ne travaillaient pas. Au train où il vivait, il avait calculé qu'avec ses pertes de jeu, il serait sans argent dans 3 ou 4 ans. Il ne s'en souciait pas. Il avait abandonné toute dignité, ne se soignait plus et portait toujours des complets tachés, élimés, du linge douteux, des souliers éculés. Souvent, il se couchait sans se déshabiller. Il était devenu tyrannique et se mettait à chaque instant dans des colères folles. Nathalie ne devait plus faire sa chambre ni changer ses draps. Le reste de l'appartement, il l'ignorait. Pour se venger, parce qu'à ses yeux il était destiné à une nombreuse famille, il ne voulait pas qu'on le mît en ordre. En passant, il jetait parfois, dans le salon ou la salle à manger, de vieux papiers, des chiffons, des os. Le lendemain, il fallait que ces débris se trouvassent à la même place, sans quoi il injuriait la bonne. Elle lui apportait ses repas dans sa chambre. Il mangeait, assis sur son lit, sans se soucier des assiettes qui débordaient. Il se plaisait dans l'abjection. Des gens étranges venaient le chercher et, la porte d'entrée à peine ouverte, se dirigeaient tout de suite vers sa chambre, sans même frapper. C'étaient des garçons de café sans travail, des souteneurs qui venaient lui emprunter de l'argent, des filles de la rue qui emportaient chaque fois quelque objet. Le propriétaire de l'immeuble avait en vain essayé à plusieurs reprises de le chasser. Les concierges ne le saluaient plus et se refusaient à monter son courrier ou à indiquer aux visiteurs à quel étage il habitait. À cause de cela, lorsqu'il donnait son adresse, il précisait toujours l'étage. Il redoutait tellement la solitude qu'il se plaisait à attendre, à n'importe quelle heure, des visites. Dès le commencement de l'après-midi, il était à demi-ivre. Mais son ivresse n'avait rien de celle des ivrognes. Il marchait droit, parlait clairement, distinguait les cartes en jouant. Elles agissaient comme sur une deuxième zone de son esprit. Ainsi, dès que la conversation quittait le champ habituel, il ne comprenait plus. Une sorte de gêne endormait son jugement. Comme les bêtes mêmes, ses mouvements n'étaient qu'instinctifs. Il sentait quelque chose d'anormal. De ses yeux vagues, il suppliait inconsciemment de revenir aux sujets habituels. À aucun moment il n'était assez lucide pour se souvenir nettement du passé. Il avait tout oublié. Il ne savait plus qui il était, qui il avait été. Aussi, dans l'après-midi du jour où il avait reçu le télégramme, se demanda-t-il plusieurs fois, en examinant avec attention le carré de papier, « Qu'est-ce que c'est ? Un télégramme de quelle fille ?» Au plus profond de lui-même, il y avait bien une voix étouffée qui lui expliquait. Mais cette voix était la même que celle qui lui parlait depuis des années et qu'il s'acharnait à ne pas entendre. À peine était-elle plus forte. Par entraînement, tout son être s'opposait à l'écouter. Et c'était en parlant à haute voix qu'il lui semblait le plus facile de la fuir. « De quelle fille ? Ils sont fous de m'envoyer des télégrammes. De quelle fille veulent-ils parler ?» Il se versa un verre de vin blanc qu'il but d'un trait. Contre le jour qui se faisait petit à petit dans son cerveau, il luttait comme un désespéré. Il but encore un verre de vin, froissa le télégramme. « Qu'est-ce que c'est que cette fille-là ? » Malgré soi, il regarda pourtant sa chambre, comme si, dans quelques minutes, quelqu'un devait y pénétrer. Du linge sale gisait dans un coin. Le sol était couvert de papiers et d'épluchures. Dans des accès de démence, il avait cassé toutes les glaces avec des talons de souliers, tiré le papier tenture en de longues traînées aux endroits où il s'était décollé. Devant la fenêtre, il avait attaché une couverture à l'aide d'épingles et de ficelles à la tringle des rideaux, cela depuis le jour où il avait aperçu un fumiste sur le toit de la maison opposée. Des verres traînaient sur la cheminée poussiéreuse. Dans le mur, près de la porte, une longue épingle à chapeau était plantée. Plusieurs fois par jour, il s'approchait de la porte sur la pointe du pied et, tout d'un coup, d'un geste brusque, il l'enfonçait dans le trou de la serrure. Il relut le télégramme. « De quelle fille veulent-ils parler ?» Alors son cœur se serra. Comme d'une brume, son passé émergea. Il se souvint de ses débuts difficiles, de sa femme, de tout ce qu'il avait enduré. Des heures douloureuses passaient devant ses yeux. D'instinct, il se défendit. Au lieu de se faire aller à parcourir sa vie, il s'arrêtait à chaque réminiscence par peur de la suivante qui lui ferait peut-être plus mal encore. « Cette fille, c'est Edmond. C'est Edmond. » À mesure qu'il répétait ce prénom, elle prenait de plus en plus corps devant lui, elle souriait, puis riait, puis avait le fou rire, ou bien son visage s'attristait, puis elle pleurait, puis elle sanglotait. « Elle revient ! Elle revient ! Elle revient !» Et il comprenait qu'elle allait revenir. Soudain, il laissa tomber ses bras le long de son corps, dans cette attitude qu'il avait aimé à prendre devant sa femme, puis devant sa fille, pour leur faire comprendre qu'il était sans défense, et aussi qu'on pouvait le juger. Un rayon de fraîcheur traversa le taudis. Une expression enfantine vint rajeunir son visage ravagé. Il semblait que la misère du décor n'existait plus. Elle entrait, sa fille. Son père était un vieillard. Cela la frappait. Elle s'approchait de lui, baisait ses mains et balbutiait « C'est de ma faute ! C'est de ma faute ! Pardonne-moi » Et lui, qui était descendu si bas pour que ce jour fût miraculeux, redevenait un homme. Une telle joie l'envahit qu'il se laissa tomber sur le lit et, dans son allégresse, frotta ses joues ridées contre les couvertures en balbutiant « C'est fini ! C'est fini !» sans savoir exactement ce qui était fini, mais trouvant en ces mots une grandeur à laquelle il essayait d'appliquer ses pensées. « C'est fini, c'est fini !» Maintenant, il savait ce qui était fini. C'était sa déchéance, sa douleur contre laquelle il luttait depuis des années. Elle aurait pitié de lui en le voyant dans cet état. Il pleurerait à son côté. Cette fois, un grand amour les unirait. Lui qui, toute sa vie, avait donné, il recevrait enfin. Il était vieux, elle le soignerait, le veillerait. Une vie enchantée allait commencer. Antoine Abou buvait toujours. Les heures étaient interminables. Il n'avait même pas fait sa toilette. Il voulait qu'elle le trouvât comme si elle était arrivée à l'improviste. Vers 7 heures, il avait tellement bu qu'une torpeur engourdissait ses membres. Il appela Nathalie, chercha à lui prendre les mains, à l'embrasser en remontant le long de ses bras dans une tentative qui lui était familière. Le soir, quand il était ivre, elle le tutoyait, parfois même le maltraitait. « Reste tranquille, vieux grigou !» D'ordinaire, il ne l'entendait pas. Cette fois, il l'écouta avec ravissement. « Vieux grigou ?»« Parfaitement. Appelle-moi encore vieux grigou. »« Vieux grigou !» À la fin, il se souvint de ce qu'il avait voulu dire à la bonne. « Tu sais, ma fille arrive tout à l'heure. Quand tu ouvriras, tu lui diras que le vieux Grigou est là. Ne me préviens pas, laisse-la entrer tout de suite comme les autres. » Il tourna autour d'elle. « Allons, appelle-moi vieux Grigou, des noms pires encore !» Nathalie s'éloigna. Il essaya de la retenir. Elle le repoussa brutalement. Avant qu'elle eût fermé la porte, il cria « Tu m'appelleras vieux Grigou devant elle, hein ? Ce sera drôle !» Antoine Abou s'allongea sur son lit. Il avait ôté son veston. Une atmosphère de dégradation flottait autour de ce vieillard parasé dont le gilet était déboutonné, dont les pieds chaussés reposaient sur les couvertures, dont les manches de la chemise étaient retroussées et qui somnolait dans une chambre qui sentait le renfermé et le vin. À chaque instant, il avait des sursauts. Il lui semblait que la porte s'ouvrait, que sa fille s'avançait. Il se soulevait alors à demi, puis se laissait retomber. À la fin, épuisé, il s'endormit. Il y avait à peine une demi-heure qu'il reposait, lorsque, dans son sommeil, il entendit que l'on frappait. Il ouvrit les yeux. Une ampoule électrique éclairait la pièce. Edmonde se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle avait frappé pour le réveiller. Derrière sa fille, dans l'ombre, il aperçut la bonne. Il se leva d'un bond. « Allons, qu'est-ce que tu attends, Nathalie ? Appelle-moi vieux Grigou, dépêche-toi » Mais la bonne se taisait. Il promena un regard hébété autour de lui. Il savoura un instant sa déchéance, puis tout s'effaça. Il ne vit plus que son enfant. « C'est toi ? » demanda-t-il. Elle avait maigri, elle était vêtue modestement. Elle n'osait faire un pas. Elle regardait la chambre avec effroi. Cet homme était donc son père ? Il attendait qu'elle s'approchât de lui et se jetât à ses pieds. Mais elle ne bougea pas. C'est ton père qui est là. Mais oui, c'est lui. Il a changé, hein ? Ce n'est plus le même. Il guettait avec inquiétude un sentiment de pitié sur le visage de sa fille. Il l'attendait comme une délivrance. Mais Edmonde demeurait impassible. Elle n'avait pas oublié que jadis, son père lui faisait honte. Les paroles grossières qu'il avait prononcées à l'hôtel retentissaient à ses oreilles. De le trouver dans un tel état ne l'étonnait point. Elle avait toujours senti chez Antoine Abou quelque chose qu'elle ne définissait pas, mais qui lui répugnait. C'était sans doute cette vulgarité, ce goût de la déchéance qui avait dû exister il y a 5 ans, mais qu'elle avait été trop jeune pour remarquer. Surmontant sa répulsion, elle s'assit dans un fauteuil et posa à ses pieds une valise de toile. Ce n'était plus une jeune fille, mais une femme. On devinait qu'elle avait été soumise à un homme, qu'elle avait fait le ménage, qu'elle savait coudre, qu'il n'y avait plus pour elle rien de mystérieux dans la vie. Après 5 années de privation, de vie à l'étroit dans des hôtels et des logements meublés, son amant venait de l'abandonner. C'était alors qu'elle avait pensé à rentrer. Après avoir hésité durant un long mois, elle s'était décidée finalement à envoyer le télégramme. Antoine Abou ne la quittait pas des yeux. Il lui apparaissait petit à petit que cette femme qui se trouvait devant lui ne pouvait être Edmonde. « Ce n'est pas elle. Elle n'avait pas des mains comme cela. Non, ce n'est pas elle. » Il examinait, tantôt à la dérobée, tantôt avec sans gêne. « Edmonde ! » dit-il doucement. Elle leva la tête. Alors il se mit à crier. « C'est ma fille ! C'est ma fille !» Il venait de surprendre sur son visage une expression dont il se souvenait. Mais cet élan fut de courte durée. Quelques secondes après, Antoine Abou retomba dans son état de somnolence. La froideur de son enfant le blessait. Elle ne voulait pas se jeter à ses pieds. Elle ne voulait pas avoir pitié de son père. Il pensa que rien, même les actes extrêmes, n'eût pu la toucher. Une haine profonde, qui n'avait pas cessé de croître parallèlement à toutes ses réflexions, le tira tout à coup de sa torpeur. Non contente de l'avoir poussé dans un abîme, cette fille venait l'y retrouver pour qu'il souffrît encore davantage. Se levant subitement, avec des gestes fous, il se mit à hurler. « Va-t'en ! Va-t'en ! Je ne veux plus te voir ! Tu veux me faire souffrir ! Tu es revenu exprès ! Je lis dans ton jeu ! Mais je te chasse avant ! Retourne avec tes hommes !» Un rictus cruel déformait ses traits. Il se vengeait de tout ce qu'il avait enduré sur cette femme en qui il reconnaissait à peine son enfant. Il voulut la battre, mais la colère et l'alcool le faisaient tituber. Edmonde s'était levée. Elle avait ramassé sa valise et, instinctivement, elle se dirigeait vers la porte. Va-t'en pour toujours. Laisse-moi comme je suis. Laisse-moi dans ma saleté. Ah, tu voulais que je change. Eh bien non, je resterai comme je suis. Cela me plaît, je resterai comme cela. » Antoine Abou poussa une chaise du pied, la retint de la main, la repoussa si bien qu'elle tomba. Il se précipita pour la ramasser, tomba par-dessus elle, se releva, ramassa encore une fois la chaise et la tint par un barreau. Tout à coup, il la lâcha. Ses yeux se baissèrent. Il vit la chaise couchée sur le sol. Alors, toujours en titubant, il s'approcha du lit, s'y laissa tomber de tout son long, puis, en plusieurs mouvements convulsifs, se recroquevilla, ramena ses genoux le plus haut qu'il put, pour, dans son esprit, ressembler à la chaise. Durant quelques instants, il se cacha le visage dans ses bras repliés et fit semblant de dormir. Puis il leva lentement la tête. La chambre était vide. Doucement, il quitta son lit, gagna le vestibule, où il appela d'une voix pure « Edmond ! Edmond, mon enfant, où es-tu ?» Personne ne répondit. Il alla d'une chambre à l'autre. Toutes étaient obscures et silencieuses. À la fin, il se rendit à la cuisine. Nathalie, assise près de la fenêtre, lisait un livre. « Où est Edmond ? Tu n'as pas encore fini ? Va te coucher !»« Edmond, je veux voir Edmond !»« Elle est partie !» Antoine Abou tourna la tête à gauche, à droite. On devinait qu'il s'interrogeait, qu'il cherchait à comprendre. « Elle est partie ?»« Naturellement !» Il pencha la tête comme s'il eût voulu surprendre un bruit. Puis il se redressa. Son regard implorait Nathalie. Des expressions brèves se succédaient sur son visage. Ses lèvres tremblaient. Soudain, il s'approcha de la bonne et lui prit les mains. Elle se leva et, avant qu'il eût le temps de faire un autre geste, le gifla. Il ferma les yeux, se força à rire, puis recula. Lorsqu'il fut près de la porte, il posa sa main sur le bouton, de manière à pouvoir la fermer au moindre mouvement de la bonne, puis, la tête dans l'entrebâillement, il la regarda longtemps pour le seul plaisir de lui sourire niaisement durant une seconde, chaque fois qu'elle posait ses yeux sur lui.